Allez, on va démarrer. Bonjour à tous. Bonjour Chloé Corman.
Bonjour.
Et bonjour Laurent Joly. Merci tous les deux d'être ici. Je vais commencer peut-être par parler des presque sœurs en quelques mots. Je vais faire une présentation. J'essaierai de la faire pas trop longue, mais en présentant un peu les deux textes et le travail de nos deux invités, je pense que se déclineront déjà quelques points communs qu'on essaiera de dérouler tout au long de cette discussion. Les presque sœurs, Chloé Corman, le récit, l'histoire de six enfants, six filles, Mireille, Jacqueline, Henriette, André, Jeanne et Rose. On verra tout à l'heure que certains prénoms ont été modifiés pour, parce que ce livre est un roman et non pas un récit. Ces trois enfants ont été séparés d'abord de leur famille en octobre 1942 avant d'être déportés. Trois d'entre elles, les sœurs Corman, vos petites cousines, seront arrêtées dans la rafle de Sainte-Mandé le 22 juillet de 1944 et déportées le 31 juillet dans le dernier convoi de Drancy vers Auschwitz, où elles seront assassinées comme beaucoup d'autres enfants juifs. Que reste-t-il 80 ans plus tard, 81 ans plus tard? La mémoire, quelques témoins, des traces, celles usées par le temps, celles conservées par des musées ou des archives, une dinette, quelques photos, quelques lettres aussi. Et il reste aussi la ténacité de celles et ceux qui veulent comprendre et raconter encore l'innommable et l'irréparable. Jetez des mots pour maintenir cette histoire en respect, écrivez-vous, Chloé Corman, pour qu'elle se montre et qu'elle morde dans ses leurs plutôt que dans ma propre chair, et que jamais elle ne m'égorge, ni ne m'asphyxie, ni moi, ni mes enfants. Il y a dans votre travail comme un besoin de restituer au plus proche de la vérité une histoire longtemps tue dans votre famille. Et si ce texte mélange des témoignages de survivants, des réflexions plus personnelles et le récit aussi de votre enquête sur différents lieux, ce livre est fait sous forme de trois chapitres qui représentent trois lieux différents, nous y reviendrons. Vous avez choisi la forme du roman, je le disais dès le départ. Alors, c'est la littérature dont on parle, c'est de la littérature dont il est question, un endroit où on peut peut-être arriver à transmettre la mémoire de ce qu'on dit l'innommable ou l'irréparable à partir du moment, je crois, où la littérature ne se veut ni consensuelle ni consolatrice. Quoique, je crois que chez vous, il y a quand même quelque chose de la consolation, on le verra. Mais surtout, il y a de l'ordre et je pense que c'est là où il y a un point commun entre tous les deux, l'envie de justesse et peut-être aussi d'un peu de justice à l'image de votre papa, avocat, qui avait en 1987 été un des avocats des parties civiles dans le procès contre Klaus Barbie. Et je ne peux pas ne pas me dire, et surtout en vous lisant et la façon dont vous revenez sur des points bien précis, qu'il y a une envie, effectivement, non pas de faire justice, ce n'est pas votre travail, mais tout de même de remettre un peu quelques points sur les i et d'être dans le juste. C'est finalement aussi le travail de l'historien d'être dans le juste et d'être bien précis et d'éviter finalement des fois d'être dans les amalgames où le temps a passé et on a un peu oublié la réalité des choses. Et c'est finalement ce que vous avez eu envie de faire, Laurent Joly, avec la rafle du Veldiv qui est apparue aux éditions Grasset en 2021, déjà maintenant, 2022, ben oui. Vous avez décidé de façon minutieuse d'analyser et de restituer ce qui s'est passé pendant ces deux jours irréparables, ces deux jours de la rafle du Veldiv. Mais pas seulement, parce que les deux jours ne suffisent pas. Vous êtes revenu un petit peu en arrière au moment de la décision, de la préparation, vous racontez ces deux jours et vous racontez aussi après, parce qu'il y a la traque après et puis il y aura la dernière rafle dont on fait partie les trois sœurs Coleman. Et puis il y a surtout, j'ai envie de dire, dans ce dernier ouvrage, pour l'historien que vous êtes, une envie d'incarner. Parce que là aussi, ce livre est fait de beaucoup de témoignages. Il y a un travail fou, et vous allez nous parler de ce travail fou, de documentation, mais l'envie de mettre des noms, d'incarner comme pourrait le faire finalement un romancier, un écrivain. On parle peut-être là aussi de littérature. Pourquoi, peut-être, je vais commencer par vous, Laurent Joly, pourquoi avoir eu envie, et c'est vous qui le dites, je crois, dans le livre, hein, d'incarner pour être au plus juste, et nous reviendrons aussi sur les choses que vous vouliez un petit peu rappeler, et là aussi mettre des points sur des i, et nous verrons en quoi ça fait écho à aujourd'hui, aux inquiétudes qu'on peut avoir aujourd'hui. Cette envie d'incarner, de mettre des noms, de mettre des photos, d'être dans la précision des gens, des âges, de ce qui s'est passé. D'où est venue cette envie-là ?
C'est vraiment une envie, on va dire, intime, personnelle. C'est-à-dire que quand je suis rentré au CNRS il y a maintenant 17 ans, je faisais de l'histoire statistique, administrative, institutionnelle. J'ai fait des livres assez arides. Et puis arrive un moment où face à, en plus, un paysage un peu confus, où vous avez des gens qui s'autoproclament historiens et qui touchent évidemment beaucoup plus de monde que nous, avec nos articles, nos livres scientifiques. Il y a 5-6 ans, je me dis qu'il faut écrire autrement l'histoire. En plus, parallèlement à ça, je commençais à écrire des films, pour des documentaires pour la télévision, et ça m'a appris à écrire de manière courte, efficace et très direct et incarné. Donc tout ça fait que j'ai, pour un livre qui s'appelait Dénoncer les Juifs sous l'occupation, j'ai vraiment changé de manière de travailler, et j'ai poussé la volonté d'être vraiment au niveau des victimes, au niveau des décideurs et dans leur bureau, mais aussi de ceux qui exécutent, enfin, à chaque fois incarner les gens où ils sont, dans ce qu'ils font. Et la RAF du Veldiv, j'ai même décidé de ne pas faire de notes de bas de page. Là, c'est presque une trahison pour un historien, tout en donnant des références à la fin, mais il n'y a pas de notes, ce qui fait que le livre peut se lire, effectivement, je ne veux pas dire comme un roman, parce que je n'ai pas cette prétention, mais comme un récit fluide qui se lit et qui soit accessible. Je vais aller bientôt dans une classe de 3e où les élèves ont lu le livre, donc c'est pour que, à partir de la 3e, on puisse lire un livre d'histoire accessible. C'était ça l'idée. Il y a aussi l'idée, là je crois que Chloé et moi va se rejoindre, de réparer. C'est-à-dire que j'avais vraiment le souci de retrouver des destins, de retrouver des photos. Alors, moi je publie des photos, voilà, peut-être on vous demande pourquoi vous ne l'avez pas publié, c'est qu'on voudrait voir ces petites filles, et pour vraiment leur redonner, voilà, leur identité, leur vie, voilà. C'est ça qui m'a motivé.
Vous avez tous les deux fait un travail incroyable. Vous le dites, vous avez travaillé sur une documentation importante, je crois même inégalée dans ce travail-là. Mais vous aussi, Chloé Corman, parce que l'histoire commence déjà avec une sœur, la vôtre. C'est elle qui va, au départ, rencontrer une... elle n'est pas allée au camp, mais une des sœurs des rescapés qui était avec vos petites cousines. Et c'est elle qui vous apporte, finalement, le début de votre travail. Et vous allez partir sur des lieux importants, à la recherche de traces, pour sentir peut-être les lieux. Vous allez prendre aussi des photos. Vous prendrez des photos de plein de choses. Et on les imagine, ces photos. On a envie des fois de les voir, quoique je ne suis pas sûre de ça. Mais y a un travail triple chez vous. Il y a le travail de l'écoute, de la rencontre. Il y a le travail personnel aussi. Il y a le travail de l'écrivain. Et il y a l'enquête que vous faites aussi. Et on vous suit. Et on est derrière vous, à côté de vous par moment. On prend les photos avec vous. On regarde avec vous. Ce travail-là, les préliminaires, j'ai envie de dire, de l'écriture, a été l'un des travaux les plus importants.
Oui, il y a un double travail d'archives, en fait, qui accompagne l'écriture du livre. Un qui concerne les archives du passé, et un qui concerne des archives, ce qui devient immédiatement des archives sur le présent, à travers par exemple des photos, mais aussi des enregistrements sonores des différents environnements que je rencontre, et surtout des personnes, des témoins. Alors vous avez parlé, je vais raconter un petit peu pour ceux qui n'ont pas lu, mais c'est vrai que le geste au départ qui m'a permis de faire le livre, c'est ma sœur ma sœur cadette, qui retrouve une des sœurs qui ont connu la vie de mes petites cousines déportées. Et tout d'un coup, qui la rencontre, ça fait une différence énorme avec les archives qu'on avait dans la famille, c'est-à-dire deux photographies de ces petites filles mortes en 44 et six lettres. Ou alors d'autres archives qui étaient les archives, les archives des internements, de la déportation, celles de... On n'avait que ça. Et soudain, on a des personnes vivantes avec une proximité de temps qui est vertigineuse. C'est-à-dire que cette petite sœur, des sœurs qui ont été internées avec mes cousines, elle a une fille de mon âge. Et ça, en termes générationnels aussi, je trouve ça vraiment très impressionnant. Et donc, nous sommes, il y a cette proximité sans un saut générationnel. Et des personnes, l'aînée, celle qui a veillé sur cette troupe de petites filles qui se sont serrées dans et tenues, gardées de la solidarité dans des circonstances que je découvre petit à petit de plus en plus sordides. L'aînée qui a organisé l'évasion de ses propres sœurs, une vieille dame tout à fait claire, parlant avec des souvenirs très vifs, une langue très précise, et alors soudain quelque chose devient possible pour écrire là où devant le matériau des archives familiales ou des archives collectives j'étais, c'était inerte et c'était désemparant, voilà. Alors c'est pourquoi c'était désemparant. Les lettres, ça m'emplissait de tristesse, mais à un point qui était paralysant. Je vous disais qu'il restait six lettres. Ces lettres, c'est des lettres que les petites filles internées pendant 2 années. Parce que vous avez dit elles sont séparées en fait en juillet au moment il y a la rafle à Paris et puis il y a les rafles, les battues dans toute la France et c'est à ce moment là qu'elles sont séparées de leurs parents et elles vont vivre 2 années seules à écrire des lettres. Alors une première lettre qui a atterri chez mes grands-parents exilés en Suisse qui leur dit nos parents sont partis pour destination inconnue. Et ensuite, les destinataires des 5 autres lettres, c'est des gens, apparemment des amis de leurs parents, qu'on n'a jamais retrouvés. Et donc, ça montre le désarroi de ces petits... Elles n'espèrent même plus écrire à leurs parents. Elles n'espèrent même plus écrire à mes grands-parents. Elles ont compris qu'ils sont trop loin, qu'ils sont inaccessibles. Elles écrivent à des amis, de la famille, des gens qu'on n'a pas retrouvés. Et ça dit quelque chose d'abyssal sur la solitude de ces petites filles. Et après, il y a les archives, les listes d'internement, qui sont terribles parce qu'en fait, alors à part le convoi à partir duquel elles sont déportées, il n'y a pas de liste. Parce que c'est le dernier convoi et ça s'est fait dans un chaos et une envie de tuer qui était forcenée, mais il n'y a pas de trace. Mais tout ce qui précède, à chaque fois qu'elles sont dans un commissariat, à chaque fois qu'elles sont dans un foyer, il y a une liste qui est dressée et raconter un destin de petite fille par ces listes qu'on peut mettre bout à bout jusqu'à leur mort. C'est désemparant parce que c'est pas des petites filles, c'est comme si on les racontait déjà mortes. Donc l'idée, c'était aussi qu'est-ce que je peux trouver qui les raconte autrement.
Qu'est-ce qui fait qu'ils revenir à l'enfance aussi, parce que il se trouve que vous êtes enceinte, vous aussi, que vous avez un autre enfant, et il y a ce retour toujours à la maternité et à l'enfance. Il y a chercher ces objets finalement qui font la douceur, si je peux dire ce mot-là, de l'enfance. Je parlais de la dinette. Ouais. Vous allez tomber, grâce à un archiviste, sur la dinette de la petite fille. Il y a la montre qui a été offerte à une des petites filles dont les aiguilles représentent les bras de Mickey. Et vous allez passer du temps et nous raconter comment la petite fille joue avec sa montre et regarde sa montre. Et c'est là qu'est la littérature, finalement. C'est là où on ramène, finalement, cette enfance-là, cette vie, on essaye de trouver quelque chose qui nous raccroche à l'histoire et qui nous permet de la raconter autrement. C'est
une tentative de raconter le mouvement de l'enfance, de les raconter. En fait, comme quand on parle à des enfants et qu'on a besoin de s'accroupir pour se mettre à une certaine hauteur et les entendre parler. Et là, ça a été... Alors, par mes propres enfants, ça a été compliqué, en fait. Pendant longtemps, je me suis demandé ce que je faisais là, en présence d'un enfant si petit, puis enceinte, à passer autant de temps dans cette histoire... si c'était pas dangereux. Et puis, il y a eu un moment de bascule où je me suis dit que cette histoire, en fait, elle existait par-devers moi, qu'elle allait côtoyer mes enfants, quoi qu'il en soit, et que c'était... je suis d'ailleurs très touchée que vous ayez lu ce passage sur le rapport au conte, c'est-à-dire comment on peut apprivoiser l'effroi par certaines fables. C'était aussi une possibilité que j'avais de trouver des mots pour les accompagner. Et ils m'ont donné aussi leur propre façon de parler, leur propre mouvement. Voilà. En fait, les observer, c'était pouvoir imaginer ces petites filles. Et des moments comme ça où alors il y a eu la dinette, c'est vrai que se retrouver dans un centre d'archives et tout d'un coup le documentaliste qui vous apporte depuis une heure des papiers, les listes dont je parlais, qui dit attendez, excusez-moi, j'ai encore quelque chose pour vous, il va dans la réserve et donc il arrive avec cette boîte. Qui était la dinette de ma petite cousine, enfin l'aînée des trois sœurs, conservée par ses amis de souffrance. Et ça a été... alors là, c'était vraiment le moment où mon fils aîné il jouait à la dinette. Voilà. Alors, dans comme moment d'identification, de projection. Et après, il y a d'autres archives. Vous parlez de la montre, en fait... En fait, c'est des souvenirs. C'est-à-dire que cette montre, je l'ai inventée. Mais une montre, quand on est enfant, c'est un objet, effectivement, qui fait basculer dans l'imagination, dans des moments comme ça. Il se trouve que cette montre, je la mets en scène dans le moment où elles sont embarquées au commissariat. Et c'était aussi prêté... un peu de ma propre chair à ces enfants, de mes propres souvenirs d'enfance. Ouais.
Alors, si on reste un tout petit peu dans l'univers de l'enfance, puisque c'est ponctué ce livre de cet univers de l'enfance, parce que c'est des petites filles et qu'elles elles y sont dans cet univers-là malgré tout, il y a aussi les contes pour enfants, parce qu'il y a Jeanne Montefiore qui va être avec eux et qui va, un des premiers soirs, leur dire « il ne fait pas trop froid, on va mettre un châle » et elle va leur raconter une histoire. Et là aussi, c'est à nouveau plonger ces enfants dans l'univers de l'enfance.
Oui, alors là, ça s'appuie sur une chose réelle, qui est donc le premier internement des petites filles, ce sont des circonstances abominables. Elles sont mises au camp de Beaune-la-Rolande, après que des milliers de personnes venant du Veldiv et ensuite qui ont été retournées à Drancy, ont été mises en attente dans ce lieu avant d'être déportées et tuées. Et elles arrivent dans un lieu, elles ne savent pas ce qui s'est passé, c'est désert, il y a plein de baraquements vides. mais vraiment c'est hanté, quoi. C'est un enfer. Et il y a quelques internés qui sont demeurés là, dont, et donc ça je ne l'ai pas inventé, dont une femme d'une soixantaine d'années, Jeanne Montefiore, qui est, alors ça c'est, bon, elle écrit des livres pour les enfants. Et et ça je le sais par le témoignage des survivantes, elle prend la responsabilité d'occuper les journées de ces... Ils sont 15 enfants qui restent là, enfin, qui sont arrivés là après les autres qui ont été déportés, d'occuper, de les occuper, de se promener, de leur raconter. Et ce que j'ai trouvé marquant, elle invente des histoires d'évasion. C'est constamment... Bon, alors on peut dire qu'il y a quand même une grande partie de la littérature enfantine qui raconte des enfants qui devaient aller quelque part ou qui devaient rester quelque part et qui prennent des tangentes à la moindre occasion. Mais là, c'est des histoires de, oui, d'évasion, de charrettes à foin dans lesquelles on se cache, de trains, etc. Et j'espère, je crois savoir ou, que peut-être... Elle amène quelque chose dans la conscience des petites pour plus tard. Peut-être que ça, elles sont nourries. Parce qu'à côté de ça, j'ai regardé aussi ce que c'était que la culture enfantine de cette époque, les histoires que lisaient les petites filles. Et les feuilletons de Suzette, des choses complètement à l'eau de rose. Et ça m'a désemparée parce que c'est complètement inerte, quoi. C'est par rapport à ce qu'elles vont vivre. Avoir affaire à cette littérature, ça leur sert à rien. Mais peut-être que les histoires de Jeanne Montefiore, ça leur apporte une certaine force pour la suite.
Alors on va rester sur l'enfance, parce que Laurent Joly, votre livre revient sur la part et de la police française dans cette histoire de la rafle, mais les enfants ont une grande place aussi, et la question des enfants déportés, fallait-il, oui ou non, déporter les enfants, les séparer aussi des parents, ça c'est une question aussi que vous posez, Chloé Corman. Laurent Joly, vous l'écrivez, la grande rafle a surtout entraîné un drame unique, invraisemblable. Près de 4000 enfants ont été arrêtés, séparés de leurs parents, puis déportés avec des centaines d'inconnus. Vous vous posez cette question, vous restez longtemps sur la question des enfants, de la séparation, puis de la déportation des enfants plus tard. Ça a été important pour vous aussi de revenir sur cette question-là.
Oui, bah c'est le cœur du crime, c'est-à-dire que les Allemands en juin 1942 ont exigé la livraison de 40 000 juifs et juives, c'est la première fois qu'ils exigent des femmes, en âge de travailler. Donc ça, c'est la demande initiale des nazis, pour une raison logistique, Chloé en parle aussi dans son livre, qui est que les crématoires ne sont pas prêts, donc ils ne veulent pas s'embarrasser d'enfants. Donc Vichy a géré cette demande-là, qui est une demande exorbitante, monstrueuse, qui doit entraîner inévitablement une séparation entre les parents et leurs enfants. Alors là, Vichy aurait évidemment dû dire non, dire on ne peut pas vous donner des gens qui ont des enfants, surtout quand ces enfants sont français. Ça, c'était totalement contraire à toutes les règles. Et or, Vichy va faire le choix de livrer des juifs apatrides qui ont des enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? Alors, à Paris, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de ça en travaillant sur ce livre, parce que c'était assez confus, en fait. Ce qui s'est passé à Paris est unique. C'est unique en France, mais aussi en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on a fait le choix d'arrêter les parents avec les enfants. Donc, il y a là un internement qui va avoir lieu. Et les séparations vont avoir lieu dans les camps d'internement, donc à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande. Donc c'est ces séparations terribles de l'été 1942. Mais en province, il y a autour du 15-16 juillet 1942, il y a aussi des rafles. Il y a des rafles un peu partout. Et là, on n'arrête pas les enfants. On ne les arrête pas. On les donne à la voisine, à la synagogue du coin. Donc on arrête 1000 personnes en province, et on en arrête 9000 plus 4000 enfants à Paris. Et donc, le drame des enfants Kaminski et Cormand découle de ça. C'est qu'en province, les enfants n'ont pas été arrêtés avec leurs parents et en revanche, on les prend dans une autre rafle qui est assez peu connue, qui est une rafle qui a eu lieu qu'en province zone occupée du 9 et 10 octobre 1942. Là, on a arrêté à peu près 1900 personnes, des apatrides à nouveau, et les enfants qui n'avaient pas été arrêtés. Et donc, on se retrouve avec des enfants qui se retrouvent tout seuls à Bonne-la-Rolande. Donc, on est là vraiment face à quelque chose de c'est ce que j'appelle le crime dans le crime. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait que Vichy n'ait pas profité de ce flou côté allemand. Les Allemands ne veulent pas les enfants. Vichy aurait dû dire, les gens qui ont des enfants ne peuvent pas vous les donner. Or, ils font ce choix de parce qu'ils veulent donner le maximum de personnes. Et à Paris, ils gardent les enfants, ils arrêtent les enfants parce que, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que la rafle est un échec, c'est un semi-échec, c'est le paradoxe de la rafle du Veldiv. On visait 27 000 personnes, on n'en trouve que 9 000. Et il y a 4 000 enfants en plus. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 4 000 enfants ? Normalement, on doit les séparer, on doit les envoyer à l'assistance publique ou à l'UGIF, et on va les garder, d'où le drame du Veldiv. On va les garder et on va les envoyer à Pithiviers-Bonne-la-Rolande parce qu'on veut gonfler les chiffres. Et puis on veut aussi se débarrasser d'un problème logistique. 4000 enfants, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est pas les quelques dizaines ici ou là en province. On a 4000 enfants sur les bras. Donc on voit qu'il se passe quelque chose de tout à fait singulier à Paris et qu'il se passe quelque chose de méconnu du coup dans la mémoire nationale en province où on arrête 1000 adultes et les enfants, c'est quelques, même pas 200 enfants. On va aller, c'est partout, hein, donc Orléans, Bordeaux, Angoulême, Rennes, Nancy, on les met de côté, voilà. Et on les prend pendant la rafle du 9 et 10 octobre 1942. Cette rafle de 9 et 10 octobre 1942, je suis sûr que, à part si vous avez lu le livre de Chloé, que vous n'en avez jamais entendu parler. C'est une rafle qui est très peu connue.
Vous venez de dire un mot important, c'est le mot « flou ». En lisant vos deux livres et en vous suivant, alors tout est très clair dans ce que vous racontez, et par moments déroutant, mais très flou aussi. En tout cas, on ressent le flou dans lequel on était dans ces années-là et le flou dans lequel tout le monde était, que ce soit les décideurs, la police, etc. C'est quelque chose qu'on le sent. Enfin, comment les enfants ont été trimballés d'un endroit à un autre. On ne savait pas finalement quoi en faire. Et tout ça, comme vous dites, pour arriver aux chiffres demandés. Et c'est ça qui est terrifiant. En vous lisant tous les deux, c'est ce flou-là. C'est ce flou dans lequel on était et qui a fait des milliers de morts.
Oui, et alors il y a le crime dans le crime de la rafle des enfants en juillet 42, et il y a la continuation de cette ascension criminelle, c'est les atermoiements ensuite concernant les enfants, c'est-à-dire qu'ensuite comme l'opinion publique, en fait, ne suit pas les autorités sur ce qui est en train de se passer, ils comprennent que là, les familles entières, les enfants, c'est un choc, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il y a des atermoiements, mais qui sont terrifiants et qui consistent ensuite à garder les enfants en captivité, dans une forme de, enfin, une sorte de purgatoire pour les rafles futures. Donc ne pas décider de les tuer tout de suite, mais ne pas décider de les libérer. Et c'est ça, en fait, c'est cette dimension-là, surtout, que j'ai découverte. Et il y avait une forme de d'éclipse dans la compréhension que j'avais de ce qui s'était passé dans ma famille. En fait, je savais bien que les parents de ces petites filles avaient été raflés et déportés, que ces petites filles avaient été raflées et déportées, et en plus, j'avais bien en tête les dates, et pour 42-44, mais il y avait une espèce d'écrasement de la perspective. C'est comme si tout ça s'était passé d'un jour à l'autre. Or, ce que je découvre avec ces lettres, avec ces archives, en allant voir les lieux, c'est ce que ça veut dire que maintenir des enfants 2 ans dans des lieux où on est sûr de les retrouver pour pouvoir faire des rafles et remplir des convois, compléter des convois. Et là, c'est là que le fait d'aller voir les lieux a vraiment joué un rôle dans cet éclaircissement de ma conscience. Aller à Bonne-la-Rolande, puis dans les multiples foyers, c'était un révélateur d'une volonté, quoi. Enfin, pour mettre en attente des enfants 2 ans par milliers, il faut une telle organisation, il faut tellement de sites et de se dire, alors voilà, bon, on les a rendus orphelins, on va réorganiser une vie collective, les rescolariser. Alors on les trimballe, des fois on sépare. Il y a une cruauté en plus dans les régimes, les choix successifs. Des fois on sépare les fratries par âge, par catégorie d'âge, puis on les réunit. On les sépare par sexe, garçons et filles, dans des foyers distincts, et puis on les réunit à nouveau. Ils sont trimballés. Et donc, pour certains enfants, comme mes cousines, ça dure 2 ans. Avec des moments d'effroi, comme la rafle de février 43, où beaucoup d'enfants sont enlevés dans Paris, auxquels elles assistent nuitamment. Voilà. Et donc, moi, ce qui s'est desserré, c'était cette perspective entre ces deux dates, juillet 42, l'assassinat de leurs parents, juillet 44, l'assassinat des petites filles, et entre les deux, une administration qui est capable d'organiser un système sur un très grand nombre de sites pour garder des enfants au cas où on aurait besoin de compléter les convois.
Mais qu'on ne peut plus déporter comme ça. C'est ça le tournant de l'été 42. C'est-à-dire que ces convois qui sont vraiment, j'insiste, uniques en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on a déporté des enfants seuls, sans leurs parents, et on les a mélangés à d'autres adultes. Ça, on n'ose plus le faire après. D'où ce système bâtard d'enfants qui sont bloqués, comme on dit, parce que soit leurs parents n'ont pas été déportés, sont à Drancy, donc il s'agit de voir si on va pouvoir prendre des enfants pour les mettre avec leurs parents. Mais déporter des enfants seuls, c'est comme si là, il y avait une sorte de transgression, qu'on n'ose plus le faire. Et alors, de temps en temps, on le fait, mais c'est exceptionnel. Mais déporter un enfant de 8 ans tout seul, c'est devenu l'exception après ces convois monstrueux d'août 42. Voilà. Et c'est ça qui aussi explique ces lieux qui sont vraiment ces maisons du GIF, hein, l'Union Générale Israélite de France. Et ce que vous dites sur Edmond Kahn, qui est effectivement un personnage complètement passé, une sorte de cadre de du GIF, là on est vraiment, parce que cette notion de pacte avec le diable ou de moindre mal, elle est utilisée pour parler de Vichy. En fait, il faut utiliser ces notions-là pour parler de l'UGIF. On est vraiment face à une institution donc juive obligatoire, une loi française à la demande des Allemands, qui va jouer un rôle de complice de la solution finale et en même temps qui va aussi aider à sauver des enfants. D'où le fait que les enfants du Veldiv vont évidemment en proportion beaucoup plus périr qu'après. Il vaut mieux être un enfant bloqué, un enfant consigné, qu'un enfant pris au piège avec ses parents en juillet 42. Et on voit qu'effectivement, là, il y a 6 petites filles, il y en a 3 qui survivent. Voilà. Et quand on voit les rafles de juillet 42, octobre 42, on voit qu'il y a bien plus d'enfants qui survivent en proportion en octobre 42 que, évidemment, rafle du Veldiv. Donc, on est là vraiment dans vraiment la zone grise, hein. Ces maisons d'enfants, parce qu'on voit parfois qu'ils vont donner des listes qu'ils ne devraient pas donner. Et parfois, on voit qu'il y a de la clandestinité. Il y a aussi des enfants qui ne sont pas déclarés. Enfin, tout ça fait de ces maisons, effectivement, hein, des lieux encore assez peu connus, hein, certains vont être pris au piège et d'autres vont être sauvés.
Mmh. Je vais rester sur les enfants et justement, vous l'écrivez, hein, le point compliqué concerne les enfants, c'est ce que vous disiez tous les deux, et notamment rien que sur les dates, c'est-à-dire qu'en 24 heures, les consignes vont changer sur les enfants. Vous écrivez, les consignes datées du 12 juillet que les policiers ont entre les mains indiquent qu'ils seront emmenés en même temps que leurs parents, sauf si un membre de la famille non arrêtable une grand-mère de plus de 55 ans, une sœur ou un frère français de plus de 16 ans, etc., restent dans le logement. Or, cette disposition ne figure pas dans la circulaire du 13 juillet 1942, donc le lendemain, destiné au commissaire qui indique « Les enfants de moins de 16 ans seront amenés en même temps que les parents », etc., etc. C'est pétri de contradictions.
Oui, il y a deux circulaires qui se contredisent. Et puis surtout, ce qui réalise les bureaucrates de la rafle du Veldiv, c'est que les enfants sont français, à 80% d'entre eux. Donc, ils ne devraient pas être arrêtés. Et donc certains vont être libérés, parce que comme il y a deux circulaires qui se contredisent, on parlait tout à l'heure de Geneviève Brisa qui a écrit un très beau livre sur Jenny Plocky et son frère Maurice Rachus, tous les deux ont pu sortir, parce que Jenny avait 17 ans, était française, donc plus de 16 ans, voilà, et donc le petit frère peut sortir avec elle. Et ces possibilités-là, elles ont été sous-employées, sous-utilisées. Quand les enfants arrivent à Pithiviers, à Bonne-la-Rolande, on ne les attend pas. Et là, vous avez un juriste qui va regarder ça, à la préfecture, et qui va se dire, bah, ces enfants, normalement, devraient pouvoir sortir. Mais on ne va pas le faire parce que c'est trop compliqué. On en a 3800 sur... Donc, on est vraiment là dans un engrenage criminel dont personne n'a le courage de sortir. Parce qu'on a peur de ses supérieurs, parce qu'on a bousqué le chef de la police qui a donné des ordres drastiques, parce qu'on a un chef du gouvernement Laval qui ment, qui veut faire croire à l'opinion publique, heureusement... Personne ne va le croire que tout ce qui se passe est tout à fait anodin, que les Allemands vont créer des colonies, que c'est normal que les parents partent d'abord, les enfants viendront après quand les baraquements seront prêts en Pologne. Bon, évidemment, personne ne peut croire à une légende pareille, mais l'idée est actée que les familles doivent partir, que les enfants doivent partir. Et donc, il y a les Allemands, tout ça fait que personne n'ose faire ce qui aurait dû être... Le bon sens, c'est de laisser sortir ces enfants. 3000 enfants sont encore là après les premiers départs. L'UGIF les réclame, l'UGIF dit on peut les prendre. Eh ben non, on va les déporter dans ces convois terribles à partir du 17 août 1942 de Drancy, puisque les Allemands donnent l'autorisation de la déportation des enfants le 13 août. Mais, Chloé le dit aussi, ils ne veulent pas qu'il y ait des convois d'enfants. Donc les enfants partent à Drancy dans un état déplorable et ils sont mélangés avec des adultes qui viennent de zones libres, qui sont des réfugiés pour la plupart d'entre eux. Donc c'est des convois monstrueux. Et c'est ce qui fait que les enfants ont été broyés et que là, c'est vraiment là le vrai crime de Vichy, il est vraiment là.
Et puis l'implication de la France aussi, ça c'est ce qui est important dans votre travail aussi, c'est de mettre l'accent sur l'implication de la police française à cette époque.
La police française, la préfecture de police de Paris, ils sont exécutants. Alors là où ils ont un rôle criminel, c'est que ce sont eux qui ont pris la décision, le 17 juillet 1942, d'envoyer les enfants à Pithiviers et Bonne-la-Rolande. Là c'est certain... qu'ils les ont sacrifiés. Si les enfants avaient été gardés à Paris, dans des maisons du GIF ou à l'assistance publique, ils avaient une chance réduite, mais une chance pas nulle de certains d'entre eux survivre. Voilà, donc là, ils ont pris... Mais pour le reste, les décisions ont été prises au-dessus d'eux par Laval, le chef du gouvernement, et par Bousquet. Mais du fait de ce choix et du fait de la co-organisation pratique... parce que la rafle a été co-organisée avec les Allemands, c'est la seule, hein, la rafle du Veldiv. Après, c'est les Allemands qui donneront des ordres, qui définiront les catégories. On est face à une anomalie, un cas unique, d'une co-organisation et d'une exécution qui est 100% française. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui marque la rafle du Veldiv et donc du coup, d'une forme de complicité. C'est pour ça que si on avait été comme en 1941, les premières rafles, ou comme en 1943-1944, où là, ce sont les Allemands qui donnent l'ordre et la police française qui exécute, ben, on n'aurait pas ces problèmes de mémoire. On n'aurait pas Chirac, en 1995, devant le Veldiv, qui s'excuse au nom de la France. Ça marque vraiment quelque chose d'assez singulier, ce moment Veldiv.
Vous écrivez, Laurent Joly, un peu à la fin de votre livre, « L'histoire à hauteur d'homme que nous avons tâché d'écrire dans ces pages révèle ainsi un passé bien éloigné de certaines simplifications ou falsifications dans l'air du temps ». Ça, c'était important, effectivement, pour vous d'éclaircir certaines choses. La place des enfants, le rôle de la police française. Qu'est-ce qui vous a aussi surpris, étonné dans cette longue enquête et dans ce long travail?
Déjà que certaines interprétations du style, en fait, Vichy se trouve placé face à une situation terrible, il faut faire un moindre mal et sacrifier une partie pour sauver l'autre, c'est pas du tout ce qui est dans la tête de ceux qui font ce qu'ils font en 1942. C'est-à-dire que et Laval et Bousquet assument complètement leur politique antisémite. Ils disent pas on fait ça pour sauver les juifs français. Ils disent il faut se débarrasser du maximum de juifs étrangers. Ce sont des juifs nocifs. Ils font du marché noir. Ce sont nos ennemis. Il faut qu'ils partent de France. Donc ils assument complètement ce qu'ils font. C'est après la guerre, en 1945, qu'ils utiliseront ces arguments-là, qui sont des arguments de défense. Et quand on va au cœur de la manière dont ça s'est passé, quand on travaille sur l'organisation concrète, on voit très bien que il ne s'agit pas de sauver des juifs français, puisqu'on en a plein sous les yeux, et que jamais Vichy n'a livré autant de juifs français que le 16 juillet 1942, puisqu'on en livre 3 000 enfants français, et c'est sur leur fiche. Et d'ailleurs, ça posait des cas de conscience pour certains commissaires. Donc on sait très bien ce qui se passe. Et qu'il y a là, certes, des apatrides, mais leurs enfants sont des petits Parisiens. Et ils sont même français à titre irrévocable. C'est-à-dire que Vichy ne les a pas dénaturalisés. Et tout ça, l'administration le savait. Donc, cette histoire à hauteur d'homme montre que certaines interprétations de ce qui s'est passé sont totalement hors sol.
Chloé Corman, on sent qu'effectivement, il y a, comme je disais dès le départ, une envie de dire les choses clairement dans ce qui s'est passé. Vous faites la même chose en disant dans le ressenti, les choses se sont passées vite, mais non, c'était 2 années longues et vous racontez finalement 2 années longues, non pas seulement de ces petites filles-là, mais de tous ces enfants, parce que ces petites filles qui ont un lien avec votre vie personnelle et familiale sont aussi tous les autres enfants qui ont été concernés, ces enfants que vous dites abandonnés du monde, c'est votre phrase, vous dites il ne faut pas trop rêver, c'est une enfance surtout abandonnée du monde et de la parole. Finalement, vous leur redonnez, comme je disais tout à l'heure, un peu de leur enfance, vous racontez surtout ce qui s'est passé, donc cette envie de dire réellement ce qui s'est passé. Et puis, alors, cette envie, je sens aussi chez vous, alors, une envie, ou en tout cas, ça vient comme ça, mais de rendre hommage à ceux qui ou leur ont raconté des histoires, ou les ont soignés, ou les ont recueillis, ou les ont sauvés, et aussi mettre en avant certaines personnes et certains noms de personnes qui en ont profité ou qui ont fait du mal. Il y a quelques noms que vous donnez, et pour revenir, et qui vous tombent des fois par hasard aussi, rien que pour parler à nouveau de cette Jane Montefiore, en allant voir le livre à la Bibliothèque nationale de France, vous regardez sa jolie couverture en tissu, et vous voyez que l'ouvrage est préfacé par un écrivain, André de Maison, qui a gagné sa fortune littéraire en célébrant les aliments sauvages. Et surtout, en se hissant directeur de la radiodiffusion nationale de Vichy, en collaborant, tandis que Jeanne était internée de son côté. C'est aussi ça que dit...
Déportée, assassinée,
C'est ça que dit votre livre. Et il y a d'autres personnes que vous citez comme ça. Et notamment même aussi sur la police française. Vous dites qu'à un moment donné, il y a des photos ou des images qui sont cachées parce qu'on ne veut pas montrer que par moment, devant les camps, c'est un képi français qui est là. Et c'est aussi ce que vous faites avec ce livre-là. C'est un peu ce qui vous réunit aussi, tous les deux.
Oui, je vais parler un peu de ces adultes qui se penchent sur les petites filles et qui les accompagnent. Avant ça, je voudrais juste revenir sur cette histoire de discours, de réponse aux accusations, ce discours fallacieux consistant à dire c'était pour sauver les juifs français, que je trouve scandaleux, non seulement parce qu'il est faux, mais en plus dans ce qu'il a de pervers, en sous-entendant chez ceux qui l'entendent qu'il consentirait plus aisément à la déportation des étrangers, donc le racisme fondamental à l'intérieur de ce discours, donc qui est non seulement faux, mais qui flatte un racisme sous-jacent dans l'auditoire. C'est vraiment insupportable. Bah oui, alors ces adultes qui accompagnent les petites, ils sont... Alors c'est un roman, donc je fais aussi un choix de personnages. Et justement, ça peut illustrer d'ailleurs ces positionnements et ces ambiguïtés de la collaboration et dans les décisions de déportation et d'assassinat. Deux personnages qui ont compté pour moi, que j'ai voulu restituer. Vous avez parlé du colonel Khan, qui gouverne les maisons UGIF et qui livre beaucoup d'enfants à Drancy. Et à côté, il y a le colonel Khan, c'est un directeur, et il y a un membre du conseil d'administration de l'UGIF, le docteur Benjamin Veilalé, qui était un grand patron qui s'est occupé du vaccin contre la tuberculose dans les hôpitaux de Paris, qui se retrouve du jour au lendemain sans son poste à cause des lois anti-juives, et qui se met à faire de la médecine de proximité, de la médecine auprès des internés, des enfants internés par l'UGIF, et qui met en place qui exfiltre les enfants autant que possible au gré de ses consultations. Et voilà, là, j'ai voulu montrer deux hommes qui étaient largement aussi informés et qui ont pris des décisions divergentes dans un moment où on ne peut pas juger entièrement de la liberté de chacun, mais voir deux hommes dans ces responsabilités qui peuvent... Voilà, ça dit quelque chose sur les marges d'action et comment certains en ont eu conscience et en ont usé pour déporter des enfants ou les libérer.
Le rôle du roman, finalement, le choix de faire un roman, c'est remplir des silences, c'est se laisser une liberté, c'est pouvoir mélanger ce que je disais au départ, c'est mélanger finalement l'enquête, le récit, les témoignages, mais aussi la part de rêve, de sentiments.
Ça avait trait, je crois, d'abord à l'enfance. De même que j'ai voulu restituer des choses que j'ai retrouvées, des traces de cette enfance, la dinette où un jour l'aîné des témoins m'a chanté une chanson que chantait la plus petite des filles. Donc il y avait ces traits culturels et puis de la culture de l'enfance et aussi j'ai voulu faire honneur à la forme de la pensée des enfants. Je pense que l'imagination est à tous les âges, mais les enfants plus que nous l'expriment, la racontent, et donc ça me paraissait les écouter que de faire une œuvre qui mettait en son cœur des formes d'imagination. Et aussi, je crois que quand on se plonge dans une histoire comme celle-là, un crime comme celui-là, il y a quelque chose de paralysant dans l'idée que ça a pu être réel, mais que pour l'être, ça a pu s'inventer. Des personnes ont inventé ce qu'on a appelé, ont inventé ce génocide et ses modalités, et ça glace la pensée, ça fige, ça. Et donc c'est une forme de résistance, de se remettre en mouvement dans une invention qui de forme, qui n'est pas la restitution des faits, mais autre chose. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. Moi, j'ai... on va vous apporter le micro, madame. Moi, j'ai une dernière remarque aussi à faire, et justement, c'est peut-être la place de la littérature, c'est que quand les lieux sont importants, et vous dites quelque chose que j'ai trouvé très important, qui fait qu'on se sent tous concernés par cette histoire, c'est quand vous démarrez le chapitre sur Paris, qui est le dernier lieu, Paris, qui est le lieu où vous vivez, qui vous est donc familier, comme vous l'écrivez. Je vais juste vous lire quelques mots, au moins que vous ayez envie de le lire vous, comme vous voulez. La suite, c'est Paris et sa banlieue, la ville où je suis née et où je vis. L'histoire des internements des 6 filles est sous mes yeux, depuis toujours, étalée devant moi comme une lettre volée. Je connais ces rues, je suis déjà entrée ici, et même quand je ne connais pas ces endroits, j'ai pu passer sans le savoir, juste sous leurs fenêtres. Nous tous, on connaît les lieux qu'on traverse, et peut-être aussi que nous aussi passons sous les fenêtres d'enfants qui ont été aussi séparés de leur famille. C'est en ça que la littérature et le travail que vous avez fait est important, puisque ça montre que nous sommes tous finalement concernés, et que c'est peut-être aussi familier pour nous tous. Je ne sais pas si je suis claire dans ma remarque, mais
on est tous témoins de ces lieux.
Voilà, on est tous témoins de ces lieux, et les traces qu'on peut y lire sont importantes. Madame.
C'est une question pour Laurent Joly. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Allemands qui ont commis les pires crimes n'osaient pas déporter les enfants. Ça me paraît complètement
ils osent totalement déporter les enfants. Simplement, ils sont encore plus cyniques que vous avez l'air de l'imaginer. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne veulent pas les enfants parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour les tuer à Auschwitz. Donc les gens qui partent veulent des gens en âge de travailler. Donc 90% en gros des convois rentrent, travaillent et sont destinés à mourir par le travail et l'esclavage. Voilà. Et tout n'est pas prêt pour les enfants. Et quand c'est prêt, en passe d'être prêt, ils se disent c'est maintenant on peut les prendre. Voilà. Et c'est vrai que ce cynisme-là, là au moins on peut reconnaître que Vichy ne l'a pas compris. Ils n'ont pas vraiment compris ce qui se jouait. Ils ont compris qu'il y avait une politique criminelle, mais ils ont pas su les dessous, les chambres à gaz, des crématoires, ça ils ont pas compris. D'où ce alors même qu'ils ont des informations, ils savent que les Juifs sont destinés à mourir. Donc évidemment qu'ils sont inexcusables, mais honnêtement ils n'ont pas compris pourquoi les Allemands voulaient pas les enfants tout de suite. Ils ont pas percuté. Et donc Laval, qui était un malin, s'est dit on va essayer de faire croire à l'opinion publique que les Allemands veulent créer. D'ailleurs, à un moment donné, il demande aux Allemands qu'est-ce que je dois dire à mon opinion publique. Et les Allemands lui disent dites qu'on fait des colonies. Très bien, on fait des colonies. Vous faites des colonies là-bas en Pologne. Voilà.
Est-ce qu'il y a une autre monsieur?
Moi, je voudrais demander à Laurent Joly, je me suis peut-être trompé dans les dates, mais quel était le rôle éventuel de Xavier Vallat dans cette histoire? Ou est-ce que c'était trop tôt? Je me perds
un peu dans les... Il est l'homme qui va préparer toutes les lois antisémites. Il est commissaire général aux questions juives de mars 1941 à mai 1944. Les Allemands ne le voyaient pas comme l'homme de la solution finale. Ils trouvaient que c'était un bon juriste, qu'il avait fait un bon travail, mais ils ont préféré imposer au gouvernement de Vichy un homme à eux, Darquet de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, dont je viens de sortir un livre sur Darquet de Pellepoix, qui est vraiment l'homme des Allemands. Il est payé par les Allemands depuis 1936, d'ailleurs. C'est un agent de propagande nazie. Et lui, il va accompagner ce mouvement, même s'il ne va pas faire grand-chose. Hein. C'est vraiment Bousquet, le chef de la police de Vichy, qui va négocier avec les Allemands.
Il y a juste sur Bousquet et sur à nouveau ce qui va arriver et sur les gens ne savent pas ce qui va arriver. Vous mentionnez Paul Morand qui rapporte dans ses carnets des confidences et notamment les confidences que lui font certains ministres dans la journée du 15 juillet. René Bousquet, à propos de la rafle du lendemain, craint, donc ça c'est des guillemets, c'est ce qu'il dit, craint des incidents, suicides, etc. Tandis que Jacques Benoît-Méchin, secrétaire d'État chargé des rapports franco-allemands, laisse tomber. Les Juifs ne se doutent pas de ce qui va leur arriver.
Oui, c'est... dans ce livre, j'ai d'abord et avant tout utilisé la masse des dossiers d'épuration de policiers, ce qui m'a permis vraiment d'incarner les policiers. J'ai utilisé les témoignages de victimes. Et pour le reste, les témoignages que j'ai utilisés, j'ai vraiment privilégié ce type de témoignage-là, c'est-à-dire qu'il est vraiment, véritablement brut. Paul Morand, il est à Vichy, il tient son journal, et son journal, il ne l'a jamais retouché après. Et il est sorti posthume il y a 3 ans. Donc j'ai vraiment... Tous les témoignages que je cite ont toujours cette caractéristique-là. Ils n'ont pas été retouchés après. C'est très important parce qu'après, les gens, parfois, réécrivent. Et là, c'est vrai que c'est glaçant. C'est-à-dire qu'il y a ça. Il y a Bousquet qui se vante à la popote de la ministérielle de Vichy fin août. Il dit « J'ai liquidé 13 000 juifs. Maintenant, ils n'ont qu'à intérêt à bien se tenir. » Il y a Laval qui dit aussi à Paul Morand « C'est notre intérêt de nous aligner sur les Allemands sur le problème juif. » Enfin voilà, ça, c'est truffé de propos accablants qui sont ceux de Laval et Bousquet à l'été 42 et non pas après, en 45, quand ils diront « Nous, on a fait ce qu'on a pu, on a essayé de sauver les Juifs français. »
Madame.
Oui, justement, à propos des Juifs français et des Juifs étrangers, je suis d'accord que ça n'a pas une importance énorme, mais Valdiv, c'était des Juifs. Pourquoi il y a un débat autour de Juifs français, Juifs étrangers? Pourquoi les historiens n'ont pas l'air d'être d'accord?
Ah ben les historiens sont complètement d'accord.
Donc c'est que des Juifs étrangers, alors?
Les RAF, c'est l'accord entre les Allemands et Vichy, il est simple. Les Allemands, eux, veulent 40 000 Juifs. Vichy leur dit, d'accord, on va vous donner 40 000 Juifs, mais vous nous laissez les choisir. Et donc on vous donne des Juifs de zone occupée, mais on vous donne aussi des Juifs de zone libre, que les Allemands ne demandaient pas. Et donc ça, c'est la politique de Vichy. Livrer les Juifs étrangers, apatrides. Seulement, ces Juifs apatrides, il se trouve qu'ils ont des enfants, pour certains d'entre eux. Et c'est là où on voit que on va livrer les Juifs français tout de suite. Et puis, de toute façon, après, il va y avoir des arrestations individuelles. Et puis, quand on va basculer dans l'État milicien, en 43-44, surtout 44, quand les Allemands vont ordonner d'arrêter des Juifs français, Vichy s'exécutera. Mais là, Vichy sera exécutant, si vous voulez. Le procès Papon, c'est ça où on ne sait pas quelles étaient vraiment les marges de manœuvre du gouvernement à ce moment-là. Mais le moment 42, et ça n'excuse absolument pas Vichy. Vichy a fait un choix politique qui est d'accepter... Vichy pouvait dire non. En Belgique, le maire de Bruxelles a dit non. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de faire ça, c'est illégal. Vichy n'est pas dans une logique de droit, n'est pas dans une logique de moindre mal, c'est dans une logique politique. Et il fallait donc donner 40 000 Juifs. Et Vichy, depuis longtemps, voulait se débarrasser des Juifs étrangers. Dès 1941, Xavier Vallat l'avait annoncé, c'est une déclaration dans la presse, en avril 1941, les Juifs étrangers seront déportés. Mais en faisant ça, Vichy ne s'est absolument pas mis en situation de protéger les Juifs français, puisqu'au bout du compte, sur les 75 000 Juifs déportés, vous en avez un tiers qui sont français. Voilà, par des arrestations individuelles, par les RAF, et puis surtout par ses enfants, plusieurs milliers, dès l'été 1942. Donc vous voyez, c'est un débat qui, pour les historiens, n'a pas de sens. C'est des arguments pro-domo de Vichy, et on n'a pas à en tenir compte, normalement. Mais vous avez des gens qui en tiennent compte, et vous avez même parfois...
Mais pourquoi ils voulaient se débarrasser d'abord des Juifs étrangers?
Vichy n'a jamais eu l'intention de se débarrasser des Juifs français. Pourquoi se débarrasser des Veil, des Picards? C'était... Même Darquet de Pellepoix dira, les Juifs français, il faut qu'ils restent.
Donc c'est une question économique, parce que
c'est... Non, c'est une question de xénophobie, avant tout. C'est ces Juifs étrangers, c'est Laval, Bousquet, ils sont avant tout xénophobes. Ils veulent se débarrasser de ces étrangers indésirables qui n'ont rien à faire en France.
Ah ben, c'est une belle conclusion, parce que c'est aussi ce que votre livre nous fait... écho à aujourd'hui, finalement, parce que c'est ça aussi les leçons du passé. Quand on est historien, c'est aussi ça. C'est comment l'histoire nous parle des inquiétudes d'aujourd'hui. Vous qui avez aussi écrit sur, entre autres, Éric Zemmour, Laurent Joly, plus de 4000 dossiers que vous avez ouverts, lus, travaillés pour ce livre important, La rafle du Veldiv, aux éditions Grasset, avec des photos, des textes, des listes à l'intérieur. C'est troublant et c'est un travail conséquent. Et important, et je confirme que c'est un livre qui, alors je ne sais pas comment le dire simplement, mais vous disiez que c'était important de le rendre lisible pour des jeunes, pour des élèves, et je confirme que c'est une forme d'écriture qui est fascinante, qui ne nous lâche pas Chloé Corman, ce livre sur les traces, sur la mémoire, sur les traces, sur les lieux, sur les dinettes qui ne sont pas cassées, qui sont restées entières, pour raconter l'histoire de ces presque sœurs, les sœurs Corman. C'est un roman et c'est un roman qui est aussi très, très important. Les livres sont là, des dédicaces sont faisables aussi. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup.
Merci.